Que de lutte pour venir jusqu'ici, sincèrement. Peut-être 3 semaines que nous sommes en lutte avec... oui! Oh. Bonjour, Réjean.
Bonjour tout le monde, que Réjean dit. Oh, c'est cool.
Donc, j'ai oublié mon... Voilà. C'est des accessoires. Peut-être quelques petites choses avant de commencer à vous dire à quel point c'est un privilège que de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu et comment il nous a guidés à travers ça. On est dans un processus de discernement face au rôle que le Seigneur veut qu'on occupe et qui est commencé depuis bien avant décembre et dans lequel on cherche et encore la face du Seigneur pour nous. Qu'est-ce qu'il veut nous, vers quoi il veut nous diriger? Et donc, tout plein de choses. Et là, quand Marc a demandé pour cette prédication-là, il y a trois mots qui sont apparus de façon assez claire en lien avec, bien sûr, dans un premier temps, la posture de la communauté face à son avenir, d'une part, les besoins qui ont été mentionnés, d'autre part, et comment on veut, qu'est-ce qu'on a à y faire, nous, chacun d'entre nous? On l'a dit tout à l'heure, on l'a chanté, on nous a guidés dans ce chant-là tout à l'heure, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et je suis membre du corps de Christ. Vous l'avez chanté, donc j'assume, on assume tous que c'est le cas. On assume tous que c'est vrai. Oh boy, 2, 3, 4 quand même, hein? C'est pas si pire. On devrait s'en sortir. La liste des membres pour l'Assemblée annuelle est courte. Donc, j'assume qu'on fait tous partie de la famille de Dieu, de ce corps de Christ. Voilà, c'est bon. Donc, en tant que membre du corps, j'ai un rôle. Je suis membre du corps, comme dit Paul. Chaque membre du corps a une fonction et a un rôle. Donc, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Et trois des mots sur lesquels on va revenir après. Trois mots qui sont arrivés. Le premier, c'était abondance. Le deuxième, c'était démesure. Et le troisième, c'était comble. Donc, on va situer ça dans un contexte biblique et voir qu'est-ce que ça veut dire. Je pars le chronomètre, la mesure. Voilà. D'abord, première chose que je tiens à dire, dans Galates chapitre 3, verset 28, ça nous parle justement à cet endroit-là. Ce n'est pas le texte du jour, mais c'est une préambule. Alors que, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et en cette journée internationale du droit de la femme, nous tenons à dire à quel point ceci est une réalité et devrait être une réalité profonde pour l'Église militante qui doit justement préserver, s'assurer que les droits des femmes sont préservés dans notre culture et dans notre société et par l'Église. L'Église doit militer en faveur de la valeur, de la dignité et du droit des femmes dans notre société. Trop de violences, trop d'abus, trop de féminicides ont lieu. Et l'Église doit être là afin de militer pour cette cause-là. Si on n'y est pas, on manque notre coup. Voilà. Voilà. Première chose. Donc, mesdames, merci. Merci d'être là, de revendiquer vos droits. Et nous voulons nous tenir à côté de vous pour le faire. Voilà, première chose étant dit. Deuxième chose... Éditorial, l'Assemblée annuelle qui s'en vient, c'est pour nous tous, en tant que communauté de foi, en tant que famille d'Église, l'Assemblée annuelle, selon la Constitution d'Église au Canada, de l'Église locale au Canada, c'est le plus haut niveau décisionnel de de l'Église dans l'Église. Quand l'Assemblée annuelle est réunie en tant qu'Assemblée, c'est le plus haut niveau décisionnel de l'Église. Donc, il est important que nous y soyons tous et que nous réalisions ce privilège-là de pouvoir nous exprimer en tant que famille d'Église et de pouvoir exprimer selon nos cœurs et selon la vision que le Seigneur nous donne pour notre communauté, ce que nous voulons faire. Plein de choses vont être présentées, des rapports, des budgets, tout ça. Un budget, ce n'est pas que de l'argent, c'est une vision pour le futur. C'est une vision de ce que Dieu, à laquelle on veut croire et à laquelle on veut se joindre de manière à pouvoir ainsi propulser notre communauté dans sa vision qu'on répète à chaque dimanche, qu'on répète régulièrement. Cette vision-là, est-ce que nous y croyons? Et si nous sommes membres de ce corps, quel rôle mon pied ou mon orteil fait pour l'y accomplir? Et à quel point on veut se joindre à l'équipe qui est là, au pasteur, à son épouse, qui nous servent si fidèlement pour y arriver? Merci, Cheryl. Merci, Marc, qui n'est pas là, mais on pourra le dire une prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. Trois mots. Trois mots. Hey, quatre minutes pour dire ça. Abondance, mesure et comble. Donc, mesure ou démesure. Et c'est des mots qui sont revenus et ils ont tous un lien en commun. On va pouvoir les aborder de manière probablement un peu différente. Donc, Lise a le médité là-dessus et elle va apporter quelque chose en rapport avec le premier mot. Et ensuite, je ne sais pas du tout combien il va me rester de temps, ni comment, quel autre mot va venir prendre la place après. Donc, vraiment, c'est ouvert à ce que le Saint-Esprit va vouloir guider. On n'a pas de contrôle là-dessus, mais on va respecter le temps. OK? Donc, je donne la parole à Lise maintenant à cet égard-là.
Allô, tout le monde. En fait, c'est quand Marc nous a demandé si un ou deux et où nous deux, on était disponible pour amener la parole, il m'est venu tout de suite un questionnement ou ce que je me disais, puis ça me tortillait dans la tête en me disant dans Jean 10, 10b, qui est la deuxième partie du verset 10, qui dit, Jésus, il dit, moi, là, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, puis elles l'aient en abondance. Bon, OK. La vie en abondance, ça veut dire quoi? C'est-tu réservé aux anciens? C'est-tu réservé aux plus vieux? Est-ce que ça inclut les enfants? Ça inclut-tu les jeunes? Eux autres, ils ont un appel au ministère, fait que c'est normal qu'il y ait la vie en abondance. Ça veut dire quoi, la vie en abondance? C'est pour qui? Puis, ça m'arrive souvent d'avoir plein de questions dans ma tête. Ça n'arrête pas dans ma tête, même la nuit, ça n'arrête pas. J'ai plein de trucs qui se passent. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup regarder Jésus en action. Je trouve ça tellement agréable de le voir dans les évangiles, de le voir avancer, de le voir être avec les gens, puis de le voir aujourd'hui concrètement dans vous, de le voir concrètement dans ma vie. Puis c'est rien de mystérieux, il est juste là. Puis comment il était avec, simplement, parmi les gens. Dans les actes des apôtres aussi, comment c'était pas facile. Ça l'est pas plus aujourd'hui. Puis, Jésus, il vivait en accord avec la volonté de son Père, tout le temps. Il était tout le temps connecté avec lui. On le voit, on l'a vu dans notre cours de Transforme cette semaine sur la volonté de Dieu. Puis, il accordait la vie en abondance. Fait que c'est quoi qui m'empêche de vivre la vie en abondance? C'est-tu de l'argent? C'est-tu des biens? C'est quoi? Ça me tente-tu, moi, de changer mon confort, pas nécessairement matériel? Seigneur, ça me tente-tu, moi, là, d'abandonner telle affaire? Non. C'est bien trop épeurant. Je sais, dans le fond, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais ça ne me tente pas. OK, je vais vivre encore une dizaine d'années, puis quand je serai dans la cinquantaine, ce sera comme plus normal d'être un chrétien qui suit. Parce que c'est ça qu'on s'attend. Mais est-ce que toi qui es là, d'autres qui sont là-bas, toi, est-ce que c'est aussi pour vous autres? J'ai accepté, Seigneur, j'avais 17 ans. En fait, 18, presque 18. Ça a changé ma vie. Mais ça n'a pas été rose tout le temps, par exemple. Mais parce que ce n'était pas rose, j'ai eu accès à la vie en abondance aussi. Parce que le Seigneur m'a transformé, puis une chance qu'il m'a transformé. Parce que je ne suis pas sûre que vous aimeriez la vie, ce qui était dans ce temps-là. J'étais un petit peu pas mal plus direct. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la vie en abondance? Le contentement de ma vie actuelle, je suis bien là où je suis, l'amour de mon péché, de mes péchés, mes secrets, ça paraît pas. Ça n'est pas obligé d'être sur le plan extrême, là. Ça peut être des petits trucs dans notre vie qu'on n'a pas envie de changer. Le refus du changement, etc., etc. Puis, on parlait de ça hier, Francis puis moi, je disais, c'est bien drôle, ça. On parlait avec un de nos garçons, puis je dis, dans le fond, moi, je prends des médicaments présentement qui organisent, ça régularise quelque chose dans ma vie. Puis quand je sais qu'il y a des produits que je mange qui affectent tout de suite, en dedans de quelques jours, l'effet du médicament. Genre, si je bois du café, ou si tel type de tisane, ou telle autre chose, ou telle autre chose, c'est pas trop long que dans mon corps, je le sens. C'est rien d'ésotérique, c'est juste je le sens. Je dis, bon, OK, d'abord, j'aurais pas dû prendre 3 jours de suite un expresso, c'était pas une bonne idée. Même si c'est super bon, je le sens tout de suite. Alors, pensez-vous que c'est pas mal pareil avec la vie abondante? Ça me plaît pas d'avoir à pas prendre un expresso à tous les matins, mais je dois faire le choix de modifier ce que je bois ou ce que je mange afin que mon médicament ait l'effet désiré dans mon corps. Fait que si je veux suivre Jésus, bien, il y a des trucs que je dois choisir de faire et de ne plus faire ou d'avancer. Puis je trouve ça dur. Moi, je trouve ça difficile. Mais je sais fort bien la résultante. Fait que c'est la même affaire, dans le fond, on le vit tout. On vit tout ça, là. Tout pareil. Fait que ça nous tente dessus, tout le monde. De dire, OK, Seigneur, c'est pas facile, mais comme un enfant qui a les petits pieds ronds puis qui est en train d'apprendre à marcher, il part pas à course, non? C'est ceux qui ont des petits-enfants, ils savent. L'enfant qui commence à marcher, il fait pas un marathon, là. Il fait un petit pas à la fois avec 2 mains de parents devant lui qui dit, vas-y, t'es capable. Vas-y, t'es capable. Je vois des sourires, c'est parce que les parents le savent. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est la même affaire avec notre Papa Céleste. Vas-y, t'es capable. Des fois, on fait 4-5 pas, des fois, on en fait un. C'est correct. C'est accessible.
Sens-toi libre d'entrer à n'importe quel moment. Va-t'en pas t'asseoir trop loin, quand même. C'est le mot périsséuo. Qui veut dire plénitude, abondance. Quand Jésus, le mot abondant, quand Jésus multiplie les pains et les poissons, je pense que c'est dans Jean 12, il est en train de faire ça, puis là, il ramasse les restes. Et il ramasse ce qui reste, puis il met ça. Puis ce qui reste, c'est ce qui abonde, c'est ce qui est en plus. C'est ce qui est en surplus. Là, dans le verset, on l'a traduit par « ils ont ramassé les restes ». Mais le mot, c'est le même mot. C'est le mot qui est abondant. Puis là, je me dis, ah, abondance. Puis là, ça nous amène à l'autre mot, à quel point Jésus, dans la façon dont il veut nous bénir, enfin, c'est dans sa volonté, c'est souvent dans la démesure. C'est souvent dans la démesure. Et il y a un verset qui dit ça, que Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit avec mesure. On voit ça dans Jean 3, 34. Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit avec mesure. J'étais, il y a quelques années, on est allé visiter une nation crie dans Montreal Lake, au nord de la Saskatchewan. Et c'était... c'était tôt le matin, et moi j'étais en charge d'un regroupement nationale de l'Alliance sur l'implantation des églises au Canada. Et on se réunissait chez eux, sur leur territoire, et donc on préparait une rencontre avec eux. Et j'étais en charge de l'horaire, donc pour moi, l'horaire, c'est important. Donc, c'est toujours, comme ici, on commence à 10 heures. Bon, c'est... non, mais écoutez, là, on décide, on arrive là, au centre communautaire où va avoir le lieu. Donc, on était des dirigeants nationaux avec les représentants spirituels, enfin chrétiens, du village Cree de la nation à Montreal Lake. Et on se rencontrait dans ce centre communautaire-là pour discuter, bien sûr, de comment mieux aider à l'évangélisation des nations Cree et de cette province-là et au Canada. Et là, on est là, puis on arrive à la porte, puis il n'y a personne. Il arrive 10 heures, puis... Donc, nous, on se dit, OK, moi, je regarde mon horaire, OK. L'heure passe, et finalement, il arrive comme ça. Et là, je me rends compte à quel point, moi, je mesure. Et on a tous une mesure de temps dans nos mains. Je ne veux pas aller nécessairement avec la mesure, mais on est habitué à se mesurer. Soit notre agenda, soit nos... On mesure tout. Tout doit être mesuré. On va dire même mesure tes paroles. Mes parents me disaient ça. Mesure tes transports. Je ne sais pas si vos parents vous ont dit. Moi, ils me disaient ça. Mesure tes... des gens de Québec. Et donc, on mesurait tout. Et vraiment, moi, je paniquais. Et là, alors qu'on discute avec eux et ils vont préparer le souper. Donc, le souper... un des frères de cette Première Nation Cree-là était allé à la pêche le matin même et avait pêché suffisamment de poissons et il avait prié Dieu pour qu'il lui envoie suffisamment de poissons pour la quantité de monde qu'on était. Et alors que même il y en a un qui a rejeté parce qu'il n'en avait pas besoin. Il l'a juste rejeté parce qu'il n'en avait pas besoin. Et il nous racontait ça. Donc, il dit, Dieu m'a amené ce nombre de poissons. Puis il dit, je me corrige moi-même, je m'auto-corrige. Il y en avait un de plus parce qu'il y a, une personne sans abri qui est venue visiter. C'est ça. Oui. Il y a une personne, il en restait un. Il y a une personne sans abri qui est venue visiter et c'était pour lui. Voilà. Et là, je dis, ah, wow, c'est incroyable comment... par souci, un, de l'environnement, d'être attentif à ce que Dieu veut, d'être attentif à ce que Dieu procure comme ressource et qu'il veut nous donner, il a agi ainsi. Puis là, je me disais, puis là, je contrastais ça ce matin avec Jésus qui envoie ses disciples à la pêche. Et Jésus qui envoie ses disciples à la pêche, des pêcheurs aguerris, et ils comptent les poissons, puis ils ne savent plus comment les compter. Ils n'ont plus de chiffres. Les filets se rompent. Et là, je me dis, bien, OK, il y a deux approches. Les deux besoins n'étaient pas les mêmes. Mais quand Jésus nous dit aussi, Jésus, ses miracles étaient souvent dans la démesure. Il était souvent dans la démesure. Ça nous dit dans l'Écriture que Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Puis là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Là, je me demandais, ça serait drôle, un message à répondre. Là, je me dis, OK, est-ce qu'il y a des gens dans notre Église qui ont déjà vécu l'œuvre du Saint-Esprit sans mesure? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie puis qui ont eu l'impression que c'était sans mesure? Le Saint-Esprit agissait au-delà. Comme dit le verset, au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. J'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais imaginé ça. C'était au-delà de la commune mesure. Y en a-tu? Ben, levez la main, tiens. OK, Jean-Claude, partage. Debout. Une histoire réelle, pas une prédication encore. Une histoire qui t'est arrivée. Go, debout. Debout. Je suis professeur, donc c'est sûr que je vais te demander de te lever. Sans commune mesure, on peut métronomer. Le mot, c'est maître. Donc, métronome, on a le mot métronome en français. On peut calculer, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de planifier, on peut essayer de rentrer dans une boîte, l'action que le Seigneur veut faire. C'est ça que l'Assemblée annuelle, d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, veut faire. C'est-à-dire qu'elle vous présente des rapports. On va présenter des rapports. Voici ce qu'on a fait. Voici ce qu'on a fait l'année passée. Et réjouissons-nous de ce qu'on a fait. Mais est-ce que ce faire-là nous a transformés davantage? Est-ce que ce faire-là a réussi à faire de nous notre véritable vision de ce qu'on aspire à être en tant que famille d'Église? Puis c'est ça, dans le fond, le vrai but. Faire pour faire, ça ne sert à rien. Si on fait juste faire pour accomplir, on aspire ensemble, en tant que communauté qui marche ici, dans cette portion de l'île, dans cette province, dans ce pays, dans ce monde, à être quelque chose encore plus fort. Et est-ce qu'on se contente, est-ce qu'on veut se contenter? On écoutait hier sur Netflix le film, Netflix, le film sur la vie de Paul. Surprenant, il y a beaucoup de films chrétiens sur Netflix. Et sur la vie de Paul, et là, il raconte au préfet de la prison, il raconte que, il dit la vie, il dit, c'est ça, tu mets ta main dans l'eau, et l'eau file entre tes mains, puis c'est comme ça ta vie. Mais il dit, pour le chrétien, sa vie, c'est tout l'océan. Sa vie, c'est tout l'océan. Sa vie n'est pas qu'une simple poignée d'eau qui s'écoule entre ses doigts et qui fermit. Quand Jésus va dire, en parlant de l'abondance de tout à l'heure, il va dire, une vie éternelle, une vie qui jaillira jusque dans l'éternité. Est-ce que c'est à ça à quoi on aspire? À quelque chose qui va jaillir jusque dans l'éternité. Donc, avant qu'elle se rende à l'éternité, elle passe par ce monde. Est-ce qu'on jaillit dans ce monde également par ce que nous sommes? Est-ce qu'on jaillit en rendant justice et droit à l'orphelin, aux droits des femmes, aux droits de ceux qui souffrent autour de nous? Est-ce qu'on jaillit de cette manière-là dans notre communauté? Frères et sœurs, est-ce qu'on se contente de notre poisson du jour? Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là. C'était pas une mauvaise chose. Ou est-ce qu'on veut avoir le lac au complet, la mer au complet? Et Dieu nous offre la mer. Et c'est bon d'entendre ces témoignages qui racontent comment Dieu a et va bénir. Et on aurait pu entendre encore beaucoup d'autres. On aurait pu entendre de multiples autres comment Dieu parle dans nos cœurs et dans nos vies, puis ça nous réjouit. Ça nous réjouit parce que ça nous parle de l'abondance de Dieu qui est impérissable, de son sans-mesure qui nous surprend toujours. Et il y a aussi son comble. Son comble, je trouvais ça spécial, le mot comble. Je cherchais le mot comble qui est telos, pas telus, telos. Et qui veut dire sans fin. Okay, sans fin, un but ultime, le comble. Mais attention, et là j'ai trouvé ça intéressant, parce que les versions françaises, je médite encore là-dessus. Peut-être que vous allez aider ma méditation. J'espère. Parce que le mot est aussi traduit par impôt, tribut. Là, je me dis, ben voyons donc, toi. Impôt et tribut. Puis là, je me dis, donc, autrement dit, le mot prix, un prix. OK? Le mot prix. Puis là, je me dis, OK, j'essaie de comprendre ça. Puis là, ça m'a rappelé le verset quand Jésus dit que ce n'est pas le fils qui paye l'impôt. Vous vous souvenez quand il dit ça à un moment donné, hein? Il dit, ce sont les autres. L'impôt aujourd'hui et le tribut, on n'avait pas la même compréhension à l'époque que maintenant. Aujourd'hui, c'est une charge sociale. À l'époque, c'était souvent des charges qui étaient imposées sur des peuples qui devaient se soumettre à une autorité plus grande. Et Jésus ici parle du prix à payer, parle du prix à payer, parle de l'ultime, et ça, c'était l'ultime à payer. Et dans ce mot-là, dans le mot « comble », donc dans Jean chapitre 13, verset 1, Jésus met le comble à son amour. Puis là, je me dis, waouh, on parle d'abondance. Ça nous fait toujours plaisir de parler d'abondance. Ça nous fait toujours plaisir de parler de sans mesure, de recevoir des choses. D'être dans... Mais le comble parle de donner. Et Jésus vient et il dit, ça ne se passera pas comme ça. Si tu veux être le premier, tu devras être le serviteur de tous. Il débalance dans la démesure, parce que c'est encore une fois dans la démesure, il débalance les rapports de pouvoir. Alors que dans les rôles qu'on peut avoir au sein de la communauté, dans les tâches qui peuvent nous être confiées, on peut vouloir aspirer à ou à quoi que ce soit, il nous dit, sois au service, soyez au service les uns des autres. Parce que Jésus est venu sous la forme d'un serviteur. Et c'est ça que nous dit dans Matthieu 20, 28, le service humble, il nous rappelle à ça constamment. Philippiens 2, 7, il a pris l'apparence d'un humble serviteur. Frères et sœurs, dans les rôles, dans les dons, dans les expertises, dans les expériences que nous possédons tous en tant que communauté, en tant qu'individu dans cette communauté, on en possède beaucoup. Je ne dis pas que c'est sans mesure, mais on en possède beaucoup. Et comment utiliser tout ça ensemble pour faire prospérer comme autant de poissons. Hey, ça fait un petit son. Ah, c'est là. Comme autant de poissons qui sont prêts, autant d'apôtres qui sont prêts à s'engager pour aller et faire croître cette communauté de foi. Ici, à Montréal plus grand, dans la province, au pays et dans le monde. Hey! C'est un défi, là. C'est un défi, mais je crois qu'il est là. Je crois qu'il est important qu'on le saisisse tous. Parce que avec les années, trop souvent, on s'endort là-dessus. On s'endort là-dessus. On vient ici et on reçoit. On reçoit. On vient pour recevoir. Et recevoir n'est qu'une partie de... La dimension de la foi. La grande révolution, une des grandes révolutions que Jésus a apportées, c'est l'amour, mais ce terme-là, le grand terme révolutionnaire, les uns les autres. Et prenez soin les uns des autres. Donc, probablement que notre malheur à nous dans l'Église, c'est d'être assis sur des chaises individuelles, vraiment. Parce que là, c'est là qu'on manifeste d'une certaine manière, c'est drôle un peu, mais c'est là qu'on manifeste notre individualité, trop de lettres, individualité. C'est là qu'on manifeste notre individualité alors qu'on arrive, puis... On s'assoit quasiment dans notre chaise habituelle, puis on s'assoit quasiment à côté du monde habituel, puis on fait notre habitude. On fait notre habitude. On ne veut pas trop être dérangé, mais être dérangé, ça fait partie de la foi, être dérangé. Ça fait partie, c'est au cœur de ce que la foi est, d'être dérangé dans ce que nous sommes. Si on ne veut pas être dérangé dans ce que nous sommes, je ne sais pas si on fait partie de la bonne foi, vraiment. Je dis ça comme ça, je fantasse un petit peu. C'est enregistré en plus, je pense. Hein? Oh boy. Excusez, Marc. Non, mais sincèrement, je pense qu'on devrait aspirer tous à être déséquilibrés. Wow, hein? Non. Ben, oui, ben c'est ça que je veux dire. Tu sais, non, mais marcher sur un fil... Marcher sur un fil dans lequel le Seigneur nous pousse à gauche et à droite. Et on écoutait Paul, là, le film Paul, puis c'est ça qu'il dit. Le préfet lui demande, il dit, « Mais écoute, t'es quoi, toi, gars? T'es pauvre, t'es battu. Paul est à la fin de sa vie. Il n'y a pas de blooper, il n'y a pas de divulgateur là-dedans. Là. Mais on voit Paul à la fin de sa vie et c'est raconté selon la perspective de Luc qui l'accompagne. Et Paul est à la fin de sa vie, puis tu vois le vieux Paul, puis il est meurtri, là. Comme il l'explique dans 2 Corinthiens, je crois, où il a été battu plusieurs fois, puis tout ça. Donc, ça se voit dans son être physique qui a été meurtri comme ça. Et là, tu te dis, puis il dit, t'es quoi? Mais il dit, hey, je suis libre. Je suis libre. Je suis pas, c'est pas là mon gain. Mon gain est dans la mort. Puis, et là, tu dis, wow! Les paroles de Paul qu'on retrouve dans ses épîtres par la suite se révèlent tranquillement à travers les textes qui sont dits. Et là, tu dis, puis quand tu vois une image qui l'appuie, ça lui donne beaucoup plus de... l'image parle beaucoup. Hein? Et je ne dis pas que c'est tout le temps chronologiquement correct. Là. Je dis juste qu'il y a une force là-dedans. Puis si nous, on pense que... Et c'est ça que Ananias et Saphira, qui accueillent l'Église chez eux, disent à un moment donné. Jésus l'avait annoncé que c'est ça qui arriverait, qu'on souffrirait. Là. Puis c'est pas tout le temps... On souffre, on va souffrir pour lui. Puis souffrir, des fois, c'est pas nécessairement... Et probablement que dans notre pays de liberté et de grande liberté, la plus grande souffrance, c'est l'indifférence. C'est pas nécessairement la souffrance physique, c'est la souffrance du bien-être. C'est la souffrance de l'habitude, c'est la souffrance d'être bien. C'est la souffrance du lazy boy, c'est la souffrance de... Malheureusement, c'est ça. Tout à coup, on devient bien, puis on devient des chrétiens bien. Plusieurs d'entre vous ici avaient quitté des endroits qui étaient beaucoup plus difficiles. Et on arrive ici, et c'est tout à coup plus simple. Et qu'est-ce que je fais avec? Comment je vis ça? Comment je me réintègre dans une foi qui devient tout à coup plus simple à vivre? Et est-ce que je maintiens dans mon cœur, cette passion, cette chaleur, ce feu pour lui, dans un pays où on dirait que tout est facile? Non, tout n'est pas facile. Plusieurs d'entre vous qui travaillez, vous le savez, ce n'est pas plus facile de partager la foi, de dire à quel point Christ veut donner la vie abondante, Christ veut donner une vie sans mesure, Christ veut donner une vie qui va atteindre un comble dans le service les uns envers les autres. Et est-ce qu'on est prêt à s'abandonner pour faire ça pour lui? Est-ce qu'on est prêt à s'abandonner à faire ça pour lui? Demain, je retourne travailler. Plusieurs d'entre vous retournent travailler, ceux qui étaient des professeurs. On avait une semaine. Eh oui. Non, mais il faut retourner. Plusieurs d'entre vous n'ont pas arrêté, tout court. Tu sais. Et ce n'est pas facile. Et il faut vivre sa foi là, dans des milieux qui sont difficiles, dans des milieux qui ne sont pas simples. Et Paul va dire, heureux, et Jésus va dire ça, heureux ce serviteur fidèle qui va accomplir la volonté de son Père, là où il est. Et quand tu vas être là et que ça va être difficile, je vais te donner les paroles pour y arriver. Je vais te donner les paroles pour parler. Inquiète-toi pas. Je vais te les donner, les paroles. Je pense que ces trois mots-là veulent me parler, nous parler, puis je pense qu'on les réfléchit encore pour nous-mêmes. Quand je parlais tantôt de que le mot « comble » voulait aussi dire « tribu » ou « prix », c'est que je suis, et Paul le dit, je suis un esclave libéré du Christ. Et mon tribu, mon prix, mon impôt se paye envers lui. Mon impôt, le prix, le tribut, je le paye envers Dieu. J'ai à le payer envers Dieu. Et est-ce que je suis prêt, moi, à payer mon tribut, à payer mon prix, à m'offrir en sacrifice? On voyait dans le film des Romains et Romains qui offraient des sacrifices pour toutes sortes d'affaires, puis on voyait les dieux, puis c'est ça. Là. Puis là, je me dis, wow, Jésus-Christ a fait ça une fois. Il a satisfait la colère de Dieu. Il a satisfait ce que Dieu exigeait selon la loi pour accomplir ça. Et il l'a fait pour nous, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour chacun d'entre nous qui y croit. Et il me dit en même temps, toi aussi, va. Il n'y a pas de plus grand amour. Il y en a qui l'ont dit, hein? Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce qu'on est prêt à l'impôt de l'amour? Est-ce qu'on est prêt au tribut de l'amour, au prix de l'amour, au sacrifice que ça représente pour lui, pour nos proches, pour notre communauté. Est-ce qu'on est prêt à ça ensemble? Et c'est une prédication sur trois mots, c'est pas facile. C'est, à changer la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une marche. C'est comme Israël dans le désert, puis qu'on attend. On attend que Dieu indique. Puis, si ça me rappelle un verset que quand Josué qui prend la relève de Moïse. Josué prend la relève de Moïse et Dieu lui dit, laisse sortir le tabernacle en premier. Laisse sortir le tabernacle en premier parce que tu vas traverser un chemin que tu n'as pas encore fréquenté. Là, je me dis, wow, Seigneur, est-ce que tu veux, en tant qu'Église, nous diriger vers un chemin non fréquenté, quelque chose qu'on ne connaît pas? Ou est-ce qu'on fait juste aller vers quelque chose qu'on s'attend? Mais tu veux nous diriger vers quelque chose qu'on ne connaît pas? Alors, qu'est-ce qui doit être devant? Dieu doit être devant. Dieu doit être devant. Une minute trente. OK. Alors, ça veut simplement dire, et peut-être que je reviendrai là-dessus, mais est-ce qu'on veut être une église, peut-être que je l'ai dit, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on veut être une église temple, une église synagogue ou une église tabernacle? L'église temple, c'est l'église fixe. C'est l'église qui est structurée. Une structure fixe, une architecture fixe et des rites fixes. Ça, c'est le temple. Tout était structuré, planifié d'avance, et on savait qui allait lire, qui allait chanter, qui. Tout était structuré. L'église synagogue, c'était l'enseignement, le par cœur, la répétition. Il y en avait partout des synagogues. Le temple n'avait un seul, les synagogues, il y en avait partout, et c'est là qu'on enseignait. L'église tabernacle se démontait à chaque fois. Dieu disait « Allez », il partait, il levait, il installait ailleurs, Dieu reposait là. Est-ce qu'on veut être une église temple, synagogue ou une église nomade, une église tabernacle? Je crois qu'il y a du bon dans un peu des trois, là. Tu sais, je vais dire ça comme ça. Mais moi, j'aime bien l'idée de l'église nomade. J'aime bien l'idée de l'église nomade qui se met à l'écoute de Dieu. Et tout. Non. La mesure. Qui se met à l'écoute de Dieu pour partir, pour arriver, pour s'installer, et qui le fait ensemble, en tant que communauté. Prions ensemble, justement. OK? Lise, veux-tu venir prier avec moi?
Mais cet esprit, on a vraiment besoin de ton aide au quotidien, de choisir de marcher dans tes pas, aide-nous à écouter, à entendre, en fait entendre, écouter et mettre en pratique. Au quotidien, même si on échappe une ou deux, Seigneur, tu nous pardonnes quand on te le demande. Et je te prie, Saint-Esprit, que tu viennes toi-même souffler sur nous, sur ceux qu'on aime, qui sont un peu partout, à travers le monde, au travers le Québec, à travers le Canada. Seigneur, aide-nous, à travers nous, à aimer notre prochain. Moi, je ne trouve pas ça facile. La semaine passée, là, on avait plusieurs clients qui me tapaient ses nerfs. Puis, je te prie, Seigneur, je te remercie de me le montrer, je te remercie de nous le montrer, puis mets un regard d'amour dans mes yeux. Mets un regard d'amour, des paroles d'amour dans notre visage, des gestes. Merci, Seigneur, pour ta présence, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci, Seigneur, parce qu'on a entendu, on a vu ton amour dans ce que Jean-François partageait tantôt. Encore aujourd'hui, ça le dépasse. Wow! Merci Seigneur. En ton nom, on te prie.